Bon matin, Doc.
Oui, Steve.
On a un article du Journal de Montréal ce matin.
Oui.
Puis là, je me suis dit, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? On va aller tâter le terrain un peu avec quelqu'un qui s'y connaît, du moins plus que moi, le Doc Mailloux lui-même. C'est en page 16 du journal ce matin, on dit pénurie de spécialistes pour les transgenres.
Oui.
C'est un centre qui s'appelle le centre Meraki. Mmh. Et on dit en 10 ans, c'est à Montréal, là, le centre est passé de 5 à plus de 100 nouvelles références par année pour s'occuper de mineurs trans. Et à ça, on dit, on a peu de spécialistes, il y en a seulement 7 en pédiatrie. En endocrinologie, il n'y en a pas beaucoup non plus qui ont une expérience. Et il y aurait chez les médecins de famille 6 qui auraient une expertise là-dedans. Donc, de un, il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Et de deux, ce qui est relaté dans l'article, c'est quand même une explosion, là, de passer de 5 à plus de 100 en 10 ans, il me semble que c'est pas mal.
Non, il y a une explosion à cette clinique-là. Est-ce qu'il y a une explosion à Montréal? C'est autre chose.
OK.
Alors, de tout temps, lorsqu'une clinique s'ouvrait et s'intéressait, se formait et s'intéressait aux transformations de genre, à ces individus, ces êtres humains qui sont convaincus d'être dans le corps du genre opposé à ce que leur corps indique. Alors, et le plus souvent, ce sont des hommes qui se sentent femmes dans leur corps, même s'ils ont une paire de testicules, et qui veulent être transformés en femmes.
Avez-vous déjà vu des chiffres là-dessus? On sait-tu quel pourcentage? On ne sait pas, hein, Doc?
Non, il n'y en a pas gros.
Non, non.
Il n'y en a pas gros et il n'y a pas de... Soyez sans crainte, il revient dans l'eau, là. N'allez pas commencer à paranoïer sur toutes sortes de causes. Et ça a toujours été d'un clair-obscur. Exemple, okay. Une des premières cliniques a été au Montreal General Hospital. Et c'est un peu par défaut parce que personne n'en voulait. Et j'étais là à l'époque, 1974. J'étais jeune résident. Et même mes confrères résidents en psychiatrie, on était 7 ou 8, ne voulaient pas évaluer et prendre en charge ces cas-là. Alors moi, je me suis ramassé l'espace de 6 mois avec 4-5 cas de transsexualisme.
Mmh. Et pourquoi vos collègues ne voulaient pas? C'est trop compliqué?
Non. Et non.
Ça demande du temps?
Phénomène de contre-transfert, écoute. Faut être relativement bien dans sa peau pour voir quelqu'un qui dit « Moi, je veux changer de sexe. Je veux qu'on m'enlève mes testicules. »
OK, OK, OK.
Tu sais, ça va à l'encontre des... ce que professait Sigmund Freud.
OK.
L'anxiété de castration.
Faut être solide entre les deux oreilles, là.
Oh, solide ou un peu comme Mailloux. Je sais pas, un peu particulier. Et moi, là, écoute, quelqu'un qui voulait se faire enlever les testicules, ça me dérangeait pas tellement dans les miennes.
OK.
Alors que mes confrères, qui étaient des jeunes hommes, puis des hommes d'un certain âge, ça les bouleversait. Ils
ne sentaient pas bien. Les jambes se croisaient, puis ils se tortillaient sa chaise, puis ils veulent pas en traiter.
Oui, parce que normalement, Freud a affirmé que chez tout jeune garçon, il y a une espèce de peur relativement facile de se faire choper les testicules. Devine par qui s'occupe des jeunes garçons principalement. Alors, pour ne pas les nommer, c'est une des théories de Freud,
okay,
qui est probablement vraie dans bien des cas.
Il y a une forme d'instinct, il y a une forme d'instinct, Doc, qui existe quand même, je pense.
Oui, oui, il y a beaucoup de petits garçons qui ont peur, dépendamment de la réaction de leur mère, qui ont peur de se faire amputer les organes génitaux. Et il y a des mères qui y veillent assidûment.
Mais sans mettre les mères là-dedans, Doc,
il y a un réflexe... Sans mettre les mères là-dedans, parce que ça explique pourquoi il y a autant de médecins et de policiers qui sont très mal à l'aise devant des transgenres, des individus qui veulent changer de sexe.
Okay.
Bon, tout ça pour te dire que les cliniques qui se sont formées au fil des ans, c'était relativement instable. La RAMQ payait pour la transformation pendant quelques années, cessait de payer pendant quelques années, recommençait à payer pour le suivi et la transformation, ainsi de suite.
Puis là, en plus, si tu n'as pas beaucoup de spécialistes, le spécialiste sport, il revient, ça va faire d'autres choses.
Une des cliniques les plus stables, c'est la clinique du Montreal General Hospital à McGill, à Montréal, avec le docteur Pierre Assaliane. Maintenant, quand Pierre Assaliane va laisser ça, je ne sais pas ce qui va arriver de sa clinique.
Mais de votre impression, il n'y en aurait pas nécessairement plus.
Je pense pas.
Pas beaucoup, en tout cas.
Non, non, je pense pas. Okay. Et c'est une condition qui commence toujours jeune. Ça commence pas à 20 ans.
Ah oui, les gens savent ça, là, 2-3 ans, mettons. Là.
Ben, ils sont mal à l'aise avec, avec leurs organes génitaux. Ils se sentent dans le genre opposé à ce que leur corps indique.
Ouais.
Tu sais, le
ça s'exprime vite.
Oui, et c'est surtout, c'est pour ça que je le dis, je le répète, ce matin, on nous présente une Caroline, une petite fille qui veut devenir un garçon. Mm-hmm. C'est beaucoup plus rare. Et j'en ai pas vu souvent, j'en ai vu quelques cas, dans ma pratique, mais c'est rare.
Mais dans tous les cas, pour les parents, si votre enfant donne cette impression-là à approcher avec...
Bon, oui. Ouverture. Et là, il y aurait une clinique, et moi, j'avais jamais entendu parler d'une clinique pédiatrique qui s'intéressait au phénomène. Mm-hmm. C'est pas fréquent. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'ils sont passés de 5 cas à 100 cas en l'espace d'un an, parce qu'ils ont probablement été ciblés, reconnus comme étant une clinique accueillante pour cette problématique-là.
Donc, il y a de l'intérêt, il y a une expertise, on dit, on va là.
Allez pas croire nécessairement que là, il y a de quoi dans l'eau, puis il y a une explosion de transgenre.
Et donc, le temps file.
Non, oui.
Le temps file, puis ce sujet-là est très bon. Merci d'avoir éclairci ça un peu pour nous, mais je voulais absolument qu'on glisse un mot sur votre sujet du jour aujourd'hui. Est-ce que vous avez un code d'éthique en séduction? Vous permettez-vous de séduire des hommes ou des femmes mariées ou engagées? Ou est-ce totalement contre vos principes?
En couple.
Oui. Mais puis, Doc, je mettrais ma main au feu qu'il peut y avoir une différence de genre ce matin.
Hop, alors là, on va se mettre là-dessus.
J'ai hâte de voir, peut-être je me trompe, là.
Qu'est-ce que tu soupçonnes?
Que les femmes auraient peut-être plus de principes à ne pas aborder d'hommes en couple. Je vous dis pas qu'elles le font pas.
Les hommes s'acharneraient plus sur
Je pense que je pense que ça les dérange moins que les femmes. Mais c'est une hypothèse. Ça sera validé ou contredite. Je sais pas.
Oui, merci. Merci du commentaire.
J'ai hâte de voir, mais généralement...
On va s'y pencher, Steve.
Je pense que les femmes sont plus frileuses à l'idée de courtiser un homme en couple. Je pense.
Ah oui?
Je pense.
Ah ouais?
Plus frileuses que les hommes.
Ah, tu penses ça, toi? T'en penses des affaires?
Mais là, on parle d'écho, là. Hein? Simplement d'écho, c'est pas une expérience statistique.
Les échos peuvent être trompeuses.
Peut-être.
Un écho ou une écho? Mm. Masculin ou féminin, l'écho?
Je serais porté à dire un masculin.
Écho, un écho, masculin. Une écho, un écho.
C'est pas le temps de se poser la question le matin, mais je pense que c'est un.
Oui.
Doc, au plaisir de vous écouter à
9h30. Bye. Bye. Bye.